Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
À toutes et à tous, alors bonjour à vous trois. Alors vous êtes bien sûr Oblique, hein, une émission orientée aujourd'hui du côté de l'Asie et plus particulièrement du Japon.
Bonjour, nous trois.
Voilà.
Bonjour les trois aussi.
Donc Yann, qu'as-tu prévu aujourd'hui ?
L'audio Oblique, c'est sur un film de Hiroshi Teshigahara, c'est La Femme des Sables, et c'est surtout sur la bande-son de Toru Takemitsu, si notre expert...
C'est ça, prononciation.
Ça va.
Et donc, du coup, toi, tu vas...
Moi, je suis un peu feignant, donc je vais juste présenter un peu Teshigahara avant. Voilà.
Et toi, Victor, je crois que tu continues à promouvoir...
Orgie filmique, encore et toujours, avec cette fois-ci la partie texane du programme.
Alors, quant à moi, il s'agit d'une sortie en salle, le très beau The Housewife de Yukiko Mishima, en salle donc depuis le 9 mars, et toujours à l'affiche au Diagonale. Et donc, en l'absence de Justine, je laisse donc la parole à Adeline pour l'agenda local.
Bonjour tout le monde. Alors, c'est une semaine qui s'annonce sous le signe du festival. Tout d'abord, je commence avec une petite piqûre de rappel à propos du festival Orgie Filmique numéro 2. Festival entièrement gratuit qui a donc lieu du 16 au 18 mars en salle Jean Moulin à l'université de Paul Valéry. 3 jours intenses avec un total de 11 longs métrages et 10 courts métrages, tous les plus déviants les uns que les autres. Et si pendant ce marathon, vous avez envie de vous détendre, n'hésitez pas à venir dégommer du mort-vivant sur une superbe borne arcade ou sinon tout simplement boire un verre avec nous, car oui, la plupart de l'équipe d'Oblique sera présente. Pour la suite, on reste dans le thème du festival, puisqu'il y a également le festival Cours Toujours, qui se passe du 16 au 22 mars, organisé par le collectif Cours sur pattes. Ces soirées de courts-métrages qui sont mises à disposition par la fête du court-métrage tourneront autour du thème de la société. Je ne peux évidemment pas citer tous les événements, mais par exemple, samedi 19 pour la soirée Nuit du cours, vous pourrez profiter d'un concert à 18h, puis passer toute une nuit à regarder des films, échanger, grignoter et même apporter votre propre court-métrage si vous en avez envie. Pour le programme complet du 16 au 22 mars, je vous invite à consulter la page Facebook du collectif qui s'appelle Cours sur pattes. On continue avec le dimanche 20 mars au Hall Tropisme à partir de 11h. C'est l'équipe du festival Les Grands Yeux qui organise également, dans le cadre de la fête du court-métrage, une projection inédite de 10 courts-métrages pour jeunes publics à partir de 5 ans. Ensuite, le lendemain, c'est-à-dire le lundi 21 mars, rendez-vous au CGR de Latte à 19h25 pour le Nature Trail Film Festival. Au total, on retrouvera 5 films autour du trail tournés en France, en Angleterre et aux États-Unis qui suivent au fil des kilomètres des stars de la discipline, mais aussi des anonymes pour qui le trail relève d'un mode de vie ou constitue une vraie échappatoire. On enchaîne maintenant le jeudi 24 mars. Le ciné-club Jean Vigo projettera le film La Nuit de Michelangelo Antonioni. Un film qui colle parfaitement au thème du ciné-club cette année, c'est le temps. En effet, le film La Nuit est un voyage du crépuscule à l'aube, faisant le portrait d'un couple marié depuis de longues années, rongé par la lassitude, l'indifférence et le désamour. Et pour finir, c'est le vendredi 25 mars à la médiathèque de Latte à 19h que l'association Plan Rapproché projectera le film Les Bienheureux de Sofia Djama. La séance sera suivie d'un débat animé par Jian Bréchéboui, professeur d'histoire et d'analyse du cinéma à l'École supérieure du cinéma de Montpellier. C'est tout pour cette semaine. Je vous laisse maintenant avec Manu pour la suite de l'émission.
No one knew. Same, and they made him pay the price.
Le titre original, The Housewife, soit femme au foyer, hein, est Red. Allez savoir pourquoi traduire ce titre anglais par un autre titre en anglais, d'ailleurs. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un très beau film à l'affiche depuis une semaine, donc au Diagonal. L'histoire assez classique, hein, elle peut se résumer comme un portrait de femme, hein, qui s'émancipe dans un milieu traditionnel, pas très ouvert au changement. Donc Toko, mariée à un homme très pris par son travail et satisfait de la place de son épouse à la maison. Ils ont une adorable petite fille et vivent avec la mère du mari. La famille traditionnelle, auscultée au scalpel par le regard féministe, hein, de la cinéaste, laisse un temps présager une chronique sociale sur la place de la femme dans la société japonaise contemporaine. Alors, mais le film n'est pas que cela, hein, trouve une forme de singularité, hein, comme s'il fallait dire les choses une bonne fois pour toutes dès le début avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Toko, hein, épouse soumise, jouissant du confort matériel, elle n'est pas épanouie, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Un jour, lors d'une réception traditionnelle, elle croise l'homme qu'elle a aimé jadis, Kurata, le seul qui semblait la comprendre dans tout son être. Les retrouvailles marquent un bouleversement chez Toko, renouant à ce qu'elle était, hein. Passionnée d'art et d'architecture, elle décide donc de revenir dans la vie active grâce à Kurata. Elle reprend donc sa carrière d'architecte et devient amante de Kurata et on peut dire qu'elle s'épanouit enfin.
Kimi wa kawatte nai na.
Futari tomo shiriai desu ka?
Toko.
Hatarku hitsuyou nai na.
Yomigaette kuru jōnetsu ga yukiba no nakatta kimochi wo hodoite iku.
Alors, The Housewife, comme ça, à la lecture du scénario, hein, peut ressembler à une romance un peu à l'eau de rose. Mais ce n'est pas si simple. Le film s'avère plus retors du fait de la personnalité complexe du mystérieux Kurata dont on n'arrive pas toujours à cerner les motivations. Alors, auto-centré sur lui-même, cruel avec son entourage, fuyant dès qu'il s'agit de parler de soi, il n'est pas un paradoxe près. La raison profonde de son retour auprès de Toko laisse planer une ambivalence. Alors, est-ce une forme de sadisme, de cruauté ou au contraire un désir de sauver la femme de sa vie d'une existence morne et sans avenir? Alors, la réalisatrice ne tranche pas, sème le doute sur la personnalité de Kurata. La construction du récit qui forme une boucle cohérente y est d'ailleurs pour beaucoup. La réalisatrice, hein, Yukiko Mishima, dont c'est le premier film à sortir en salle, elle en a réalisé quelques-uns par le passé, par la seule expressivité des plans, hein, souvent magnifiquement cadrés, elle filme sa romance comme un thriller, qui est fait de ruptures et de changements de ton constants. Alors cet élan narratif, hein, nous induit, et aussi plastique, hein, nous induit en erreur, créant un sentiment de frustration. Le sublime est parfois rattrapé par la banalité d'une forme épousant un peu les canons télévisuels. Alors cet entrain mêlé à de la retenue traduit l'état mental de l'héroïne finalement, prise entre son devoir d'être une bonne épouse et une mère présente, et le désir de faire voler en éclats les conventions. Alors si Kurata la réveille à temps, il la plonge aussi dans une grande mélancolie. Alors cette ambivalence se lit constamment sur le visage de Toko, tour à tour frustrée, blessée, inquiète, heureuse. Et l'étrangeté physique de l'actrice, hein, K.O., hein, la lisière du surnaturel, on dirait qu'elle sort presque d'un manga animé. Hein, les amateurs de cinéma japonais l'ont déjà aperçue dans Invasion de Kiyoshi Kurosawa. Alors cette actrice, son étrangeté doit beaucoup en fait à la réussite du film, hein, qui feint d'emprunter les codes du genre avec un trio classique presque de film noir, la femme, l'amant et le mari, pour assumer son statut du mélodrame inquiet. Voilà. Je répète, c'est vraiment un beau film je crois qu'il reste encore une semaine ou deux à l'affiche avant de disparaître. Donc, allez-y.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Et l'on revient donc à l'orgie filmique avec toi, Victor.
Oui, donc cette fois-ci, à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, le festival a commencé. On est soit au premier, soit au deuxième jour, en fonction de si vous écoutez la première ou la deuxième diffusion. Et dans tous les cas, il vous reste donc cette troisième journée et son final, c'est-à-dire la soirée Redneck, accompagnée par Maxime Lachaud. Donc Maxime Lachaud, c'est un essayiste qui a travaillé à la fois sur le cinéma et la littérature américaine, plus précisément sur le sud des États-Unis. Et donc il a sorti chez Rouge Profond en 2014 un livre somme sur le cinéma de Redneck, Redneck Movie, ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain. C'est un petit peu autour de ce bouquin-là qu'on l'a invité, et donc il va nous présenter deux films. Un premier à 18h, Sonny Boy,
Non, pardon, Sunday in the Country et Sonny Boy à 20h30. Entre les deux, du coup, une petite conférence, vous pourrez poser tout un tas de questions autour de ces portraits de familles consanguines et leurs pathologies. Je vous ai donc sélectionné un extrait en fait d'une précédente venue de Maxime chez nous à Orgie. Et pour compléter les infos à propos de cette soirée, on termine à la fin Orange pour une projection surprise qui visiblement sera de temps à autre parasité par un concert. C'est une info que j'ai eue. Enfin, bref.
Donc concert de banjo.
Oui, j'espère. Donc du coup, apéro redneck avec film surprise qu'on peut donc déguster la clope à la bouche et la bière à la main ou l'inverse. Je vous laisse donc en compagnie de Maxime Lachaud qui, dans l'extrait que vous allez entendre, tente de vous présenter l'étendue du genre redneck à des jeunes et brillants étudiants montpelliérains.
Alors, avec ces films-là, le genre vraiment se popularise. Donc, on commence à voir dans les drive-in des doubles programmes spéciales pour white trash, spéciales rednecks, etc. Donc, il y a énormément de petites productions. Et notamment, les cinéastes qui ont fait le film Les Marais de la haine sont vraiment issus de ça. C'est-à-dire, il y avait par exemple les Hors-Monde aussi, c'était des gens qui ils faisaient leurs films de leur côté. Ce qui est bien avec les films de redneck, c'est qu'on n'a pas besoin d'acteurs connus, on n'est pas Hollywood. Donc il faut qu'on ait des gueules, il faut que les gens ils viennent voir des faciès, il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait un décor. Et du coup, on va tourner en décor naturel aussi. Et tout ça, ça va donner une valeur ajoutée au film. Donc il va y avoir beaucoup dans tous ces films de dimension documentaire. On prend la caméra, on va dans les endroits reculés on va faire des films. Quelques acteurs locaux mis au milieu de tout ça, quand c'est pas aux autochtones qu'on demande eux-mêmes de jouer, pour cette authenticité. Et ce qui est intéressant vraiment dans le genre, même si les trames narratives peuvent être assez répétitives et souvent des variantes autour de la même chose, c'est quand même une sorte de surgenre. C'est-à-dire on va avoir à la fois des éléments du cinéma d'angoisse, avec le croque-mitaine qui sera le redneck, ça sera le danger auquel il faut échapper. On va avoir le côté comédie musicale avec tous ces numéros de musique. On va avoir un côté western, parce que certains dans les années 60 ils parlaient du southern. Quand on parle du western, on parle du film sudiste. Parce que c'était comme si, à une époque où le western américain déclinait pour laisser la place au western italien, tous ces films sudistes, au bout du compte, ils parlaient de vengeance, de chasse à l'homme, chasse à la femme, ça va être plus le cas des films que vous allez voir ce soir. Et puis on a aussi ces vieilles valeurs américaine, cette idée de la frontière aussi qui va avec cette notion de détour, mais qui vont être traitées d'une manière totalement dégénérée dans les films sudistes. Donc du coup, il y a aussi cet aspect western et cet aspect documentaire et aussi l'aspect comédie noire, mais comédie quand même. Même si, vous allez le voir avec Marais de la haine par exemple, même s'il y a des scènes très dures à des moments, la séquence d'après on va faire « Yeehaw !» et on va faire des courses-poursuites en barque et à bateau à moteur, quoi, en hydroglisseur. Donc on est sur un mélange de tons qui est assez étrange. Du coup, c'est pour ça que ces films sont difficiles à classer. Les deux films que vous verrez ce soir sont vraiment des exemples type du redneck movie. C'est pas des films d'horreur, c'est pas des comédies noires, c'est pas vraiment des survival, c'est pas vraiment des films d'action non plus. C'est, il y a une dimension documentaire dans chacun, avec des purs plans documentaires. Donc on est voilà entre divers tons, mais en même temps avec une esthétique extrêmement cohérente et que le public reconnaissait de suite. De toute façon, les réalisateurs des Marais de la Haine, ils disaient, nous on fait des films pour les buveurs de bière et notre public c'est les buveurs de bière. Et c'est le public qu'ils avaient, vu que ces films-là ont été des vrais succès dans les drive-in. Donc là, il faut aussi dire que le genre s'est décliné de façon assez étonnante et en même temps logique, parce que j'ai oublié de dire, il y a aussi, alors évidemment c'est une forme tordue d'érotisme, mais il y a aussi une forme d'érotisme. Certains films étaient vendus comme tels, parce que voilà, il y a de la nudité, il y a une certaine forme de fétichisme, on peut dire, mais encore faut-il avoir ce fétichisme là. En tout cas, voilà, il y a un courant d'érotisme trash qui s'est développé jusqu'au début des années 70, où il y a eu énormément de films de redneck érotiques et comédie paillarde très sexualisés. Et avec carrément des réalisateurs qui se sont spécialisés là-dedans. Il y en a un qui s'appelait Bethel Buckaloo, il n'a fait que ça. Alors les titres, c'était Sassissou, ça c'est sur l'histoire de jeune garçon qui a une histoire d'amour avec sa vache, et ses parents, ils veulent qu'il ait des rapports avec des femmes, donc ils essaient de lui faire avoir des rapports sexuels avec sa cousine. Le problème, c'est qu'il la traite comme sa vache. En fait, tout se passe mal parce que les femmes, il les traite pas bien. Et du coup, il retourne à sa vache à la fin. Pendant que ses parents essaient de remettre d'aplomb les chiottes extérieures qui se sont cassées. Voilà. Donc, c'est un peu le genre d'intrigue qu'il y avait dans ces films-là.
Merci Victor. Et bah, tout de suite, Olivier nous évoque le parcours de Hiroshi Teshigahara. J'espère que c'est ça.
Oui,
voilà. Le réalisateur donc de La femme des sables.
Pour faire une transition, quand on pense film de redneck, on pense bien sûr au Texas et au crocodile. Et quand on pense à la peau d'un crocodile, ce côté granulaire, à quoi pense-t-on d'autre que au gros plan du film La femme des sables de Teshigahara, qui filme les peaux et le granulé de ces dunes de façon très près. Et c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est très proche du film de crocodile. Donc, je voulais lancer sur. Je vais introduire un peu qui est Hiroshi Teshigahara. Alors, c'est un cinéaste qui, dans les années 50-60, est un des plus influents dans ce qu'on a appelé la nouvelle vague japonaise. C'est un cinéaste qui a un travail plastique dont je vous parlais juste avant sur le noir et blanc, qui est très remarquable et qui a été célébré pour ça. Et qui a une position un peu en marge par rapport aux autres réalisateurs de la nouvelle vague japonaise, qui rappelle un peu, hein, toute proportion gardée, enfin voilà, c'est pas... Les cinéastes ne sont pas échangeables, mais qui rappellent un peu la position qu'avait Alain René ou Chris Marker dans le paysage du cinéma français. Donc, contrairement à ses contemporains Oshima ou Imamura, Teshigahara n'a pas été formé au sein des grands studios historiques. Il vient plutôt du monde des beaux-arts. En effet, c'est quelqu'un qui est héritier d'une grande école d'Ikebana. Alors, l'Ikebana, vous voyez, c'est cet arrangement floral traditionnel. Et donc, c'est l'héritier d'une grande maison de cet art-là, et qui s'est intéressé dans sa jeunesse aux arts plus modernes, et qui rejoint des groupes dans l'effervescence intellectuelle de l'époque des années 50, des groupes d'artistes, d'intellectuels de sa génération, qui voulaient essayer de faire fusionner les arts, enfin créer des arts nouveaux, quoi. Là-bas, il côtoie l'écrivain Abe Kobo et le peintre Okamoto Tarō, qui sont des figures reconnues de l'avant-garde de cette époque. Bon, lui, il prend passion pour le cinéma, il commence à réaliser des documentaires expérimentaux, donc notamment sur le monde de l'art floral, hein, et puis ou sur le peintre Okusai, des documentaires qui explorent vraiment le médium cinématographique, et on sent une influence, par exemple, du Guernica d'Alain René, notamment. Bon, il passe ensuite au long métrage en 1962 en autoproduisant un film qui s'appelle Le Traquenard et qui marque le début d'une longue collaboration avec justement l'écrivain qu'il avait rencontré dans ses cercles, Kobo Abe. Et une collaboration qui inclut aussi le compositeur contemporain Tohoru Takemitsu, dont va nous parler Yann tout à l'heure, qui se charge de musique de la plupart de ses films. Alors, Le Traquenard, c'est l'histoire d'un ouvrier qui travaille dans des mines et qui est assassiné, on le découvrira plus tard, par un briseur de grève, et qui erre comme ça pendant tout le film, dans ce film en noir et blanc, dans un semi-monde des morts et à la recherche de son assassin. On assiste à l'impuissance de ce personnage qui semble prisonnier, en fait, d'un territoire restreint, prisonnier d'un monde fantôme. Et ces thèmes de l'enfermement, de l'identité, le personnage ne sait plus trop qui il est, sentiment d'étrangeté et d'impuissance, c'est des thématiques récurrentes des collaborations kafkaïennes et surréalistes de Teshigawara et Abe. Cette collaboration qui se poursuit donc ensuite avec leur film le plus célèbre, La Femme des Sables, qui a eu le prix du jury à Cannes en 64 et dont va vous parler Yann. Et le très beau aussi, Le Visage d'un Autre en 66, une étrange fable entre fantastique et science-fiction sur la quête d'un individu qui change de visage et qui ne sait plus qui il est. Et un dernier long métrage qui est moins connu et qui n'est pas trouvable en France, je crois, qui s'appelle La Carte Brûlée en 68, qui est une sorte de polar, une enquête qui tourne en rond sans débouché. Où c'est Shintaro Katsu, l'interprète de la série des Atoichi, le sabreur manchot, qui peine dans une enquête et devient de plus en plus paranoïaque. Voilà. Après ces films qui sont les plus connus, Teshigawara aura aussi réalisé pour la télé deux épisodes de Zatoichi, justement, qui sont des épisodes très... notamment un, le dernier, qui est très psychédélique et assez étrange. Plus tard, il se retirera du monde du cinéma pour devenir le maître de cette école d'art floral de son père. Et voilà, il n'aura plus une carrière aussi importante dans le cinéma. Alors, les films dont j'ai parlé, la trilogie, est disponible en DVD chez Carlotta, il me semble.
Oui, oui, ils sont disponibles. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas épuisé, mais je pense que dans les médiathèques, on peut les trouver assez facilement.
Mais voilà, c'est un cinéaste vraiment très important. Et si vous aimez le cinéma formel et expérimental et les années 50 et les années 60 japonaises, voilà, ruez-vous dessus.
Merci Olivier. Ben on va continuer donc avec le même réalisateur pour La Femme des Sables, justement.
Film emblématique de la nouvelle vague japonaise des années 60, La Femme des Sables, réalisé par Hiroshi Teshigahara en 1964, est un film qui se distingue notamment par sa bande-son, une partition originale écrite par un très grand nom de la musique du XXe siècle, dont la notoriété a largement dépassé celle de l'archipel. Il s'agit de Toru Takemitsu. Outre ses nombreuses compositions de musique d'orchestre, de chambre et ou pour soliste, pour chanteur, son large catalogue d'œuvres montre un intérêt constant dans sa carrière pour le 7e art. En témoigne sa signature pour une filmographie assez impressionnante. On peut citer notamment Akira Kurosawa pour les films Ran ou Dodes Kaden, Masaki Kobayashi pour le film Kwaidan ou Harakiri, Nagisa Oshima, L'Empire de la Passion, Masahiro Shinoda aussi pour Silence ou Jeunesse en Furie, Shohei Imamura pour Pluie Noire, et bien sûr Teshigahara. Olivier nous a parlé notamment du Traquenard en plus de La Femme des Sables. Donc un très vaste panel de cinéastes marquants de cette nouvelle vague japonaise. Notons aussi à la marge quelques films en dehors du Japon comme Soleil levant de Philippe Kaufman. Une des grandes forces de Takemitsu hein, fut d'allier les pupitres de l'orchestre symphonique moderne de façon occidentale, on va dire, à des instruments traditionnels japonais. Notamment le luth biwa, un luth qu'on voit notamment dans un des sketchs du film de fantôme Koidan de Kobayashi. Aussi la flûte shakuhachi, les percussions traditionnelles, c'est ce qu'on entend un petit peu dans le premier extrait, mais sans jamais verser dans le folklore local, ni amputer les instruments ethniques de leur sonorité naturelle, ni copier fébrilement les modèles extérieurs. Sa musique est faite de porosité réciproque entre Orient et Occident, elle enrichit la dialectique des croisements culturels. Rien de programmatique chez lui, pas de commande académique. Son goût pour la musique occidentale est né tout naturellement lors de ses années de formation au Japon, pendant lesquelles il découvre les sonorités de la modernité, tout particulièrement celles des compositeurs français, hein, Claude Debussy, Eric Satie, Olivier Messiaen, des influences majeures dans toute sa musique. L'imprégnation de la culture japonaise traditionnelle, ça vient plus tard, et ça suit la révélation, à la fin des années 50, des spectacles de marionnettes du genre appelé Bunraku. Un des deux personnages principaux de La Femme des Sables, le professeur Nikki Yunpai, l'autre étant bien sûr La Femme des Sables elle-même. Alors rappelons un peu le film, hein. Ce personnage est entomologiste, c'est-à-dire qu'il est spécialiste des insectes. Le début du film le montre en train d'arpenter les dunes d'une partie du littoral au Japon, en train de capturer certains insectes. Et par un concours de circonstances, il ne peut pas rentrer chez lui le soir en ville et il accepte l'hospitalité d'une femme du village voisin. Dans la maison se trouve au creux d'une fosse profonde bordée par des falaises de sable, accessible seulement au moyen d'une corde. Le lendemain, cette corde a disparu. Le professeur Yunpai se retrouve prisonnier de cette maison, menacé constamment, ainsi que les autres maisons voisines, d'être enseveli par les sables, dont la progression est souvent représentée dans le film comme une coulée de lave, et imposant ainsi à ses habitants le devoir quotidien de déblayer les congères. Une situation ironique, alors que le grand plaisir du professeur biologiste consiste à attraper les insectes pour en faire des prisonniers de son analyse. Des plans très précis sont montrés sur les insectes, un très beau plan. Et bien lui-même se retrouve à son tour, prisonnier de cette énigmatique femme des sables. Il va y avoir un jeu de relations humaines assez complexe, hein, au départ entre méfiance et adversité, domination, progressivement de la séduction, de l'empathie, de l'amour au sein de ce couple, mais aussi en lien avec les membres de la collectivité du village, hein, qui ne vont pas du tout être oubliés. Et un tel jeu va se nouer dans ce petit théâtre ensablé. Occasion bien sûr de méditer sur la condition humaine, sur les avatars métaphoriques de ses incarcérations, ses aliénations, mais aussi ses désirs et aspirations. La situation de ce couple très particulier, cerné par un environnement naturel, d'abord hostile, révèle comment une réclusion plus ou moins voulue dans un monde de survivance, qui évoque quasiment celle d'un possible avenir apocalyptique, et bien comment cette réclusion peut aussi permettre, à contrario peut-être, de se libérer d'autres carcans culturels et sociaux. La nouvelle vague japonaise, il faut le rappeler, hein, est porte-parole d'une critique très acérée du monde moderne, consumériste et phallocratique, modèle économique sociétal du Japon, mais pas qu'au Japon, ailleurs aussi, de l'après-guerre. Un environnement hostile, donc, mais aussi libérateur. Et le possible retour au monde urbain qui est offert au professeur Yunpai ne sera plus accueilli comme une délivrance, mais au contraire, comme une simple option de vie, remise en question par le désir d'une disparition du monde. Du moins d'un certain monde. On pourrait parler d'une intégration dans un autre monde, au cœur d'un autre monde, après une phase d'apprentissage.
そう大げさに考えなくても。
何？色き
Voilà, c'était un troisième et dernier extrait de la bande-son du film, La Femme des Sables de Hiroshi Teshigahara, musique de Takemitsu, qui évoque ici l'ambiance un petit peu des musiques de l'orchestre du Gagaku, hein, pour le théâtre de type No. Et une des scènes assez mémorables entre ce qui se passe entre ce couple et les villageois autour de la maison ensablée. Voilà, Olivier a tout dit sur le coffret à un Teshigahara qui est difficile à trouver, mais bah, ça peut se trouver quand même, avec un peu de courage.
Ou de torrent.
Voilà, bah, merci Yann. Donc l'émission se termine. Alors je vous donne rendez-vous quand même à Orgie Filmique. Hein. Il reste donc 2 jours ou 1 selon à l'heure à laquelle passe cette émission. Donc toute l'équipe se joint à moi pour remercier donc Anna La Technique, le Diagonal, Utopia, l'association L'Écran et son Double, Divergence, Artus Film, alors Justine même si elle n'est pas là, Adeline, donc Yann et Victor. À la semaine prochaine.
Bisous.
À la prochaine.
Salut, au revoir.